Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la grâce de nous retrouver devant notre Dieu. Et comme chaque dimanche, nous venons dans sa maison pour qu'il puisse nous enseigner, qu'il puisse nous exhorter afin de suivre exactement la voie qu'il nous a tracée et qu'il voudrait que nous puissions suivre. Pour cela, aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles. Dans l'épître de 1 Pierre, 1 Pierre au chapitre 4, du verset 1 à 11. 1 Pierre, c'est après Jacques et avant 2 Pierre, évidemment. Alors nous lisons « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit d'un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs au Seigneur, le psalmiste disait, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons dire que nous sommes dans la joie parce que nous nous retrouvons dans la maison de notre Dieu. C'est Dieu-là qui nous a aimés, qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus a souffert. Il est mort à la croix et il est ressuscité. Sa victoire constitue pour nous une nouvelle vie. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons pris comme thème de notre message aujourd'hui la nouvelle vie par la victoire de Christ. Alors, ayant cru par la foi à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous nous devons aujourd'hui de réaliser les effets de sa victoire dans notre vie. Nous avons reçu une nouvelle vie qui s'oppose à la vie ancienne et à sa façon de vivre. Cette rupture entre la manière dont nous vivions avant notre conversion et notre comportement depuis cette conversion, bien évidemment, je disais, cette rupture doit être visible. En effet, nous n'appartenons plus à la communauté des païens ou des non-croyants. Maintenant, nous faisons partie de la communauté des enfants de Dieu. Nous faisons partie de la communauté des croyants, des chrétiens nés de nouveau. Alors, parce que nous appartenons à cette famille-là, nous devons avoir un certain nombre d'objectifs à atteindre pour effectivement être appelés enfants de Dieu. Notre premier objectif, c'est d'en finir avec la vie de péché. Pierre nous rappelle dans le texte que nous venons de lire que nous avons un exemple à suivre pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce, malgré les souffrances et les embûches qui peuvent jalonner notre parcours de chrétien. Cet exemple, vous le savez bien, c'est Jésus-Christ. Sa victoire est pour nous et de maintenant, et pendant les temps qui nous reste à vivre, un repère. Sa victoire est pour nous un socle sur lequel nous devons nous appuyer. Dès à présent, nous pouvons réaliser que s'il nous arrivait à souffrir injustement, ou s'il nous arrivait à être calomniés ou maltraités à cause de notre foi, et c'est justement parce que nous avons décidé de suivre Jésus et de ne pas pécher. Lorsque, au verset 1 que nous venons de lire, l'apôtre Pierre nous dit « Armez-vous de la même pensée ». Il veut tout simplement nous encourager à considérer que ce que nous sommes et l'objectif que nous devons poursuivre doivent avoir comme fondement l'amour de Jésus-Christ. Nous devons avoir, à l'exemple de Christ, la même compréhension de la volonté de Dieu et de son action dans la vie des hommes. Cela nous amène donc à vouloir comme lui obéir à la volonté de Dieu. Cependant, cela ne nous est pas naturel. Nous avons besoin de nous armer et de nous munir de la pensée de Christ. Et surtout, nous avons besoin de nous l'approprier pour en comprendre la profondeur. Le terme grec utilisé, s'armer dans ce verset, désigne un soldat qui se revêt de son armure. Ainsi donc, avec la même détermination d'un soldat, le croyant doit s'armer de la pensée de Jésus-Christ. Alors, la motivation à vivre cette vie nouvelle, bien-aimée, ne se trouve pas dans la souffrance destinée à purifier notre foi ou à la fortifier, comme le prône certaines religions. La motivation pour nous se trouve dans le désir d'agir en conformité avec la volonté de Dieu. La souffrance de Christ a duré jusqu'à sa mort à la croix. Christ a souffert pour que vous et moi, de maintenant et jusqu'à la fin de notre séjour sur terre, nous puissions vivre pour la justice et qu'enfin nous soyons co-héritiers avec lui du royaume de son Père. Chers frères et sœurs, la mort de Christ nous rend capables de vivre conformément à la volonté de Dieu. Notre vie ne doit plus être dominée par les péchés, par les convoitises ou la débauche, mais notre vie doit être dominée par l'Esprit de Dieu. Alors, pour en finir avec le péché, le croyant doit mettre sa volonté en accord avec celle de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible si constamment le croyant s'abandonne entre les mains de Dieu avec obéissance, si aussi il résiste au péché en se servant de la parole, arme efficace que Dieu a mis à sa disposition. En finir avec le péché, c'est tourner le dos à notre ancienne façon de vivre pour ne plus nous livrer aux convoitises de la chair. En revanche, cela ne signifie en aucun cas que nous nous affranchissons de péché. Pierre nous rappelle ou nous parle d'une rupture définitive avec le passé. Certes, le péché ne règne plus sur nous, mais il peut encore nous arriver de pécher si nous ne nous conformons pas, pardon, à la volonté de Dieu. Alors, savons-nous quand est-ce qu'un chrétien peut-il rompre avec le péché? Eh bien, il peut le faire en deux moments précis de sa vie. D'abord, quand il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. À ce moment-là, il s'identifie à lui et à son œuvre. Puis, quand il se rend compte de sa responsabilité personnelle vis-à-vis de cet engagement. En réalité, cette deuxième étape est plutôt une mise en application de l'œuvre de Christ dans sa vie. La victoire de Christ nous permet d'en finir avec le péché. C'est ainsi que nous serons transformés et nous nous conformerons à la volonté de Dieu dans le temps qui nous reste à vivre. Ce que nous sommes en Jésus bien-aimé doit orienter toute notre vie chrétienne. Cette obéissance à Dieu et à sa volonté est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, même si elle entraîne la persécution ou la souffrance. Elle doit primer sur les désirs de plaire aux hommes. Elle doit primer sur les désirs de se conformer à leur façon d'agir ou d'être. Notre nouvelle vie doit être dirigée par une seule et unique volonté, celle de Dieu. Cela nous conduit à nous poser deux questions fondamentales. La première, que devons-nous faire de notre vie dans le temps qui nous reste à vivre? Et la deuxième, quelle est la chose la plus importante pour notre vie en tant que chrétien? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, nous devons nous engager fermement à ne plus nous laisser dominer et diriger par nos passions. Nous devons donc nous soumettre en toutes choses à la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous devons aussi nous engager au-delà de la décision que nous avons prise à la conversion, c'est-à-dire nous engager à persévérer, à vivre selon la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, d'autres diront, pourquoi ne pas vivre selon nos passions et nos convoitises? Eh bien, tout simplement parce que nous l'avons déjà assez fait. Et vous connaissez tous les résultats. C'était la déprime, la calomnie, le mensonge et tous les mots que vous connaissez bien. Cela concerne notre vie avant la conversion. Et le temps où nous nous livrions à ces choses qui révèlent, comme vous pouvez le voir, le caractère égoïste d'une vie adonnée au péché, ce temps, je disais, est révolu. Car nous le savons bien, le pécheur court toujours après son propre plaisir, au dépens, bien évidemment, du plaisir d'autrui. Alors, à la liste que nous avons lue dans ce texte, nous pouvons y ajouter, et de façon non exhaustive, bien évidemment, la méchanceté, la fraude, l'hypocrisie, la médisance et j'en passe et de meilleurs. Chers frères et sœurs, nous savons d'ores et déjà que le dérèglement ou la débauche, comme nous l'avons lu, est une vie adonnée à la violence physique ou à l'immoralité. Nous savons d'autre part que les convoitises sont les mauvais désirs. Les orgies étaient à l'époque de fait connues pour leur immoralité. Et vous le savez qu'au moins qu'aujourd'hui encore, ces fêtes, ils ont la cote. L'idolâtrie et l'adoration des idoles. Toutes ces choses, bien aimées, doivent être bannies de notre vie chrétienne. Je ne vous apprends rien. Les chrétiens vivent dans une attente. Tous les grands événements du plan de Dieu ont été accomplis. Il ne reste plus que le retour de Christ, qui sera donc la conclusion de l'œuvre de Dieu. La persécution des chrétiens que nous entendons à travers le monde n'est pas une situation définitive. L'approche de la fin du monde est pour ces chrétiens-là un encouragement, et pour nous aussi, et surtout un avertissement pour les persécuteurs. Rien n'est dit sur le moment précis du retour du Christ, ni sur la manière dont il se produira. Ce qui importe ici, c'est le comportement du chrétien. Parce que la fin approche, cela ne veut pas dire qu'il faille vivre sans aucun projet d'avenir, ou qu'il ne faille pas réfléchir sur ce qu'il convient de faire. Pas du tout. Nous devons simplement vivre avec sagesse, avec discernement, et conscient que Christ revient bientôt. Tel doit être notre fil conducteur. Alors, parce que la fin est proche, le chrétien doit être sobre dans son comportement. Pierre nous parle ici de quatre éléments qui devraient être présents dans notre vie de chrétien. Et les quatre éléments sont la prière, l'amour, l'hospitalité et l'esprit par les dons spirituels. Je vais dire le service par les dons spirituels. Alors, nous allons examiner ces quatre éléments au travers de versets bibliques que nous avons et surtout en examiner la portée en tant que chrétien. Le premier élément, c'est la prière. Nous devons prier avec intelligence et sobriété. C'est le verset 7 que nous avons lu qui nous dit ça. L'expression « soyez donc sobre, sensé et sobre » pardon, que nous trouvons dans ce verset signifie que notre intelligence doit être mise en œuvre. Pour mieux prier, nous devons réfléchir sur le temps de la fin que nous vivons et en évaluer les priorités et nos valeurs d'une façon intelligente. La prière fondée sur une évaluation correcte des événements mondiaux dans la perspective du plan de Dieu sera une prière efficace. Le temps approche. Je dirais même, il presse. Soyons sensés et affûtés dans le discernement. Ne perdons pas de temps dans ce qui ne compte pas pour Dieu ou ce qui n'est pas selon sa volonté. Le deuxième élément, c'est l'amour. Dans le verset 8, il nous est dit, nous devons nous aimer les uns les autres. L'expression « avant tout » que nous trouvons dans ce verset exprime donc la suprématie de l'amour fraternel dans la vie chrétienne. Sans cet amour, il n'y a pas communion possible. Toute notre vie chrétienne bien-aimée doit être fondée sur l'amour et doit exprimer l'amour. Alors, de quel amour s'agit-il ici ? C'est plus qu'un amour sentimental ou émotionnel. Il s'agit bien évidemment d'un amour sacrificiel, à l'exemple de Christ qui s'est donné pour l'autre que nous sommes, vous et moi. Cet amour qui s'exprime par le service. Cet amour recherche le bien de l'autre et non pas un gain personnel. Cette évaluation sensée du temps dans lequel il vit doit amener les chrétiens à considérer l'amour comme un élément fondamental dans sa relation avec les autres chrétiens. Cet amour doit être constant et sincère. Il demande des efforts et de la volonté. Cet amour est aussi capable de couvrir les péchés d'un frère ou d'une sœur en Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que si jamais j'ai mon frère ou ma sœur, je peux lui pardonner les offenses, grandes ou petites, qu'il a commises à mon égard et maintenir intacte notre communion. Couvrir le péché, c'est agir comme s'il n'avait pas été commis une fois que le pardon a été accordé. Alors, si nous aimons les autres bien-aimés, nous ne nous laisserons pas gagner par l'amertume. Nous ne nous laisserons pas gagner par la méchanceté ou par l'esprit de vengeance. L'amour chasse la rancœur et la haine qui peuvent infiltrer nos pensées et notre cœur. Alors, je vous en conjure, chers frères et sœurs, ne nous lassons pas d'aimer. Que cet amour soit efficace dans nos relations les uns envers les autres. Le troisième élément, c'est l'hospitalité. Nous devons faire preuve de l'hospitalité envers les frères et sœurs. C'est ce que nous dit le verset 9. L'hospitalité est une expression concrète de l'amour pour l'autre et un désir de répondre à ses besoins. À l'époque de Pierre, l'hospitalité permettait d'accueillir des missionnaires ou des visiteurs. Elle était offerte dans un esprit d'amour pour les frères et sœurs en Christ. L'expression que nous trouvons dans ces versets, l'expression « sans murmure », nous rappelle que cette hospitalité dans l'amour ne s'exerce pas sans prix à payer. Il faut accepter de donner de son temps et même de son argent. Accepter parfois des contretemps ou même bouleverser ce programme si cela en valait la peine. Mais la personne qui exerce l'hospitalité sans l'amour risque d'être remplie d'un esprit négatif. Car elle va critiquer, elle va se plaindre parce qu'elle pense plus pour elle-même que pour l'autre et à ses besoins. Dans la Bible, murmurer est synonyme de péché. Cela signifie ne pas accepter ce que Dieu veut ou ordonne. Alors, si nous sommes plus portés à nous plaindre qu'à aimer, nous ne serons jamais remplis de la joie de Dieu et d'action de grâce. Et notre relation avec les autres en pâtira. Le quatrième élément, c'est le service par les dons. Nous devons être au service des autres. Bien-aimés, nous avons tous reçu au moins un don à exercer au sein de la communauté pour l'édification de l'Église. Utiliser notre don pour le bien d'un frère ou d'une sœur est une manière de l'aimer. Les dons sont divers et sont donnés selon la volonté du Saint-Esprit pour le bien de la communauté. Recevoir un don est un privilège accompagné d'un devoir. Celui de mettre ses dons à disposition du peuple de Dieu pour son édification. Alors, l'Église qui encourage ses membres à utiliser leurs dons est riche en bénédictions, riche en amour et en communion fraternelle. Les bons intendants ou dispensateurs, comme on le trouve dans certaines versions de la Bible, ne cachent pas ce qu'ils ont reçu de leur maître. Ils les mettent en œuvre pour en tirer le maximum de bénéfices. Remarquons ici que l'esprit dans lequel ces dons sont utilisés, c'est pour le service des autres, c'est-à-dire pour leur bien. Pour que cela soit possible, il faut servir avec humilité, servir avec douceur et patience. Les dons n'est pas donné pour se glorifier, mais pour édifier le peuple de Dieu. Alors, afin de l'utiliser correctement, il faut toujours rester conscient de son origine. C'est Dieu qui, par sa grâce, accorde des dons et donne la force de les mettre au service de l'Église. Ce qui compte, c'est qu'il soit glorifié par la manière dont nous utilisons nos dons et par les fruits qu'ils produisent. L'orgueil, bien-aimé, est un piège à éviter dans le service pour Dieu. En effet, nous sommes facilement tentés de prendre pour nous la gloire qui revient à notre Dieu, cherchant à donner une certaine image de nous-mêmes en nous mettant en valeur ou en vantant nos mérites. La seule manière d'éviter ce piège est d'être rempli de Christ et d'être centré sur lui et non centré sur nous-mêmes. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être des authentiques serviteurs de Dieu pour sa gloire. Lorsque nous enseignons ou prêchons la parole, soyons toujours conscients de son origine. En effet, étant parole de Dieu, entre guillemets, elle réclame notre respect et notre obéissance. Celui qui parle se doit de le faire avec beaucoup de sérieux. L'essence de l'expression « si quelqu'un sert » que nous trouvons dans ce paragraphe est très large. Pierre nous invite à prendre au sérieux toute tâche, si minime soit-elle, que nous faisons pour Dieu. Le service vient de lui et c'est lui qui donne la force pour l'accomplir. Pour aller plus loin, il est très important de considérer ce que Pierre dit au sujet des dons et des bons intendants dans les cadres du service à l'Église. Chaque croyant de la communauté locale doit grandir dans la plénitude de Christ. C'est en mettant en œuvre les dons que nous avons reçus que cette croissance s'est produite et que les autres sont bénis. Comment une église qui ne cherche pas à faire valoir les dons de ses membres peut-elle être une bonne intendante? Je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que cette église-là risque de s'appauvrir. Alors, pour terminer, bien-aimés, nous devons donc glorifier Dieu par notre vie nouvelle. Nous venons de voir que le but du service n'est pas la gloire de l'homme. Toute gloire doit revenir à notre Dieu. Cela signifie que Dieu doit être honoré. Il doit être adoré et loué par ceux que nous servons pour le service qui leur est rendu. Voilà donc l'objectif principal que nous avons dans notre vie en tant que chrétiens. Tout faire pour le bien de frères et sœurs dans la foi, afin que Dieu soit glorifié. Nous ne cherchons plus à satisfaire à tout prix nos désirs charnels, mais nous cherchons à glorifier Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes comme autrefois, mais nous vivons pour Dieu. C'est pourquoi nous devons chasser de nos cœurs l'égoïsme et l'individualisme. La vie nouvelle est une vie tournée vers le prochain, vers l'autre. Lorsque nous courions avec les autres dans le péché, nous faisions partie d'une espèce de communauté, celle de non-croyants. Mais maintenant, nous vivons au sein d'une famille, je dirais même au sein d'une nouvelle famille, l'Église. L'Église où doivent régner l'amour et la grâce de Dieu. Nous devons être humbles, humbles devant Dieu. L'humilité, bien-aimée, doit diriger nos relations les uns envers les autres. Mais elle doit aussi caractériser notre relation avec Dieu. Elle nous fait reconnaître notre besoin de Dieu. Puisque nous ne sommes ni autosuffisants, ni tout-puissants, nous avons besoin de son aide. Être humble, c'est avoir l'honnêteté d'admettre que nous ne pouvons pas contrôler les événements de la vie, ni résoudre seuls tous les problèmes rencontrés. Cela nous amène à nous soumettre à Dieu et à ne plus compter sur nos propres efforts, ni sur notre propre volonté. L'humilité, bien-aimée, est une attitude qui nous permet d'expérimenter la grâce de Dieu. L'orgueil, en revanche, nous prive de cette grâce. Si dans notre vie nous tolérons l'orgueil, nous aurons plus de difficultés à résister au diable. Le roi David disait dans Psaume au chapitre 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. » Si, comme David, nous prenons le temps de nous laisser sonder par Dieu, et si sa lumière nous révèle de l'orgueil dans notre cœur, demandons-lui pardon et recevons son humilité. C'est ainsi donc que nous pourrions résister au diable. L'orgueilleux qui ne veut pas se soumettre se prive de l'aide précieuse et de la puissance de Dieu dans le moment où il en a le plus besoin. Comme on peut le voir, la voie de l'orgueil est vraisemblablement la voie qui n'est pas de la sagesse. Bien-aimés, nous sommes exhortés à nous humilier devant Dieu. Il ne nous laissera pas toujours au bas de l'échelle. Mais ce n'est pas à nous de déterminer le moment ou le jour qui doit nous élever. Ce moment lui appartient. Ce moment n'est d'ailleurs pas précisé. Notre devoir, nous, c'est de lui faire confiance. Cet acte qui consiste à s'humilier sous la puissante main de Dieu est donc pour toute notre vie un acte de confiance et de foi. Quand nous nous déchargeons de nos soucis, de nos problèmes, nous les abandonnons à Dieu pour qu'il intervienne selon sa sagesse, sa puissance et sa volonté. Cela ne signifie pas que tous nos problèmes vont disparaître du jour au lendemain. Mais ce qui est certain, c'est que nous n'avons plus la charge et que nous ne pouvons plus nous inquiéter. Dieu est souverain et il s'occupe de nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter lorsque nous lui confions nos soucis et nos besoins en toute humilité. Il met donc en œuvre sa toute puissance. Enfin, au regard de l'immense ou de l'imminence du retour de Christ, au regard de la grande séduction que nous vivons à notre époque, au regard des temps difficiles, au regard du diable et de son armée, bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse et de la sobriété pour être disponibles pour la prière. Le diable présentera certaines choses à nos yeux. Il nous présentera certains désirs, certaines attractions certains raisonnements. Il nous présentera certaines distractions pour nous arracher des moments d'intimité avec notre Dieu. Comme d'ailleurs en Égypte, lorsque Israël voulait adorer Dieu, Pharaon décidait d'occuper le peuple de Dieu afin qu'il manque le temps pour chercher son Dieu. Aujourd'hui encore, bien-aimés, il est plus que jamais important de comprendre les ruses de l'ennemi et surtout de les mettre hors d'état de nuire. Alors, la bataille est dans notre camp. À nous d'honorer l'engagement que nous avons pris lorsque nous nous sommes convertis. Et surtout, à nous d'honorer Dieu. Courbons la tête en prière.